Amoureux des livres, bonjour. Dans le cadre de nos échanges avec l'association Les Amis du Tapuscrit, Aréopage vous propose aujourd'hui de rencontrer Doris Kneller pour son livre Justice au bout du chemin. Un livre que vous avez écrit et construit comme un concept, mais vous allez nous expliquer très longuement votre démarche d'auteur. Bonjour Doris.
Bonjour Nathalie.
Doris, une petite bio courte pour expliquer qui vous êtes à nos auditeurs. Vous êtes née à Cologne, dont vous dites que c'est la seule ville d'Allemagne qui a quelque chose des villes du Sud. Il y a moins de soleil, mais les gens aiment rire et y faire la fête.
Absolument.
Déjà à l'école, vous commencez à écrire, à inventer des histoires que tout le monde croit. Votre première œuvre est une pièce de théâtre que vous écrivez alors que vous n'avez pas 10 ans. Votre première reconnaissance littéraire, vous l'obtenez pour un roman sur la situation des handicapés et ce roman est récompensé par un prix par le ministère du Travail allemand. C'est aussi à l'adolescence que vous découvrez un autre moyen d'expression que les mots. L'image, à travers la photo qui devient une vraie passion. Après vos études, vous partez pour de nombreux voyages en Europe, aux États-Unis, au Proche-Orient, et vous devenez journaliste au fil de ces voyages en écrivant des articles illustrés par vos photos. Vous faites le chemin qui va de journaliste à romancière et c'est donc pour votre facette auteur que nous vous recevons aujourd'hui. Quelque chose à ajouter à ce portrait ?
Non, Nathalie, merci. Je pense que c'est très bien fait. Peut-être il faut ajouter que j'ai commencé à écrire parce que je n'avais pas trop envie de travailler. C'était peut-être la paresse. Je me suis rendu compte qu'écrire, c'est plus facile que travailler.
J'ai vu ça dans la bio, mais je n'ai pas osé le mettre.
Osez,
d'accord. Donc, aujourd'hui, on vous reçoit pour Justice au bout du chemin, mais avant de parler du livre, dont on parlera en deuxième partie de l'émission, j'aimerais que vous nous parliez, c'est un peu une tradition dans cette émission, de ce qui vous a amené à écrire, et si écrire, c'est quelque chose qui vous est venu très jeune, on l'a compris, puisqu'à 10 ans, vous aviez déjà écrit une pièce de théâtre, mais si c'était culturel chez vous, si votre maman, votre papa vous a poussé à écrire, quelle est votre histoire et votre rapport avec la littérature?
Je pense que cette histoire est très simple. Non, je viens d'une maison des ouvriers. Mes parents trouvaient que lire, c'est quelque chose de superflu. Et quand ils m'ont pris avec un livre, ils m'ont dit, fais plutôt tes devoirs ou travaille quelque chose. Comme ça, lire, c'était quelque chose pour moi que je fais clandestinement. Et ce qu'on fait clandestinement, ça devient vite une passion. Écrire, c'est venu comme ça. Je me suis rendu compte très vite que je m'exprime mieux en écrivant qu'en parlant. Quand j'ai raconté des histoires à mes profs, ça n'a jamais marché, ils ne m'ont jamais cru. Quand j'ai écrit des histoires, même si elles n'étaient pas vraies, tout le monde me les a cru. Donc, je me suis rendu compte très vite qu'écrire, c'était quelque chose qui était facile pour moi, qui était une forme d'expression qui me correspondait.
Vous aviez des bonnes notes en expression écrite, en rédaction ?
Oui. En principe, oui, puisque ça m'a passionnée dès le début. Faut dire que j'avais aussi des profs qui m'ont vraiment amenée à la littérature. Là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé avec, en guillemets, vraie littérature très, très tôt. J'avais la chance de découvrir des super auteurs à un âge assez tendre. Et je vais jamais oublier un prof de littérature qui me disait, quand j'avais 17 ans, qu'il m'envie parce que moi j'ai encore tous les grands auteurs devant moi à découvrir, que lui il avait déjà découvert tout ça et regrette de ne plus pouvoir les découvrir. Et aujourd'hui, je sais qu'il a eu tort, parce qu'il y a tant de grands écrivains dans le monde qu'il me faudrait plusieurs vies pour tout les découvrir.
Je ne sais pas quel auteur, je crois que c'est un auteur français qui a écrit « Quand je vois le nombre de livres qui me restent à lire, je sais que la vie va être belle ». Je ne me rappelle plus qui l'a écrit, mais c'est une belle citation.
Il a raison, tout à fait.
À l'école, en Allemagne, c'est quoi le grand homme, le grand écrivain qu'on étudie ?
À l'époque, pour moi, c'était Günter Grass. Mm-hmm. J'ai découvert son tambour, j'avais 13 ans. Officiellement, j'étais beaucoup trop jeune. Oui. J'étais invitée avec mes parents chez une tante qui avait ça chez elle. Je me suis embêtée, elle m'a permis de regarder ses livres. Et donc, j'ai piqué par hasard ça, parce que le titre m'a plu. Et comme ça, j'ai découvert ce grand écrivain.
C'est difficile, Günter Grass, à 13 ans. Moi, j'ai vu le film à 16 ans, j'ai rien compris, donc je l'ai lu bien après le livre.
Je trouve que le film n'est pas du tout à la hauteur du livre. Mmh. Mmh.
Et à l'école, donc, comme nous, on a Victor Hugo, il y a qui Goethe. C'est qui le grand auteur allemand au-dessus de tous?
Bon, bien sûr, on a été obligé de lire Goethe, le fameux Faust. Moi, à l'époque, je suis comme par miracle tombée malade quand il fallait faire Faust, parce que ça ne m'a pas du tout intéressée. Mais il y avait bien sûr des auteurs comme Heinrich Heine, que j'ai adoré, mais qui étaient plus de l'époque.
Mm-hmm. Après, en grandissant, en vieillissant, comme vous voulez, mais il y a d'autres auteurs qui vous ont particulièrement inspiré, des auteurs encore plus contemporains que Günter Grass, des gens qui vous ont vraiment... le livre que vous allez présenter est un livre policier. Il y a des auteurs policiers qui vous touchent particulièrement
Un auteur très connu entre-temps, j'ai découvert qu'on n'était pas encore tellement connu, c'est Henning Mankell, le Suédois.
C'est formidable.
Ce qui est très particulier avec lui, très peu de personnes le savent, que c'est lui qui a inventé le commissaire, disons, humain. Oui. C'est-à-dire, avant, on avait des commissaires qui avaient des cas, qui ont résolu des cas, mais leur vie privée n'était jamais importante. Et c'est Mankell qui a donné, comme première personne, un visage à son commissaire, une vie privée, destin, quoi.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que moi j'ai découvert Mankell d'autant plus là-dedans que c'est le premier roman où intervient sa fille en tant que policière elle-même. C'est, je crois, de mémoire, Avant le gel, qui est un livre formidable de Mankell. Et il y a vraiment une dimension humaine chez Wallander qui est extraordinaire. Mankell est mort il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Et si parmi nos auditeurs, il y en a qui ne connaissent pas, lisez vraiment tout. Henning Mankell est formidable. C'est vraiment un grand auteur, pas seulement de policier, mais un grand auteur tout court.
J'ai effectivement tout lu de lui, et notamment les livres qui n'étaient pas policiers. Qui était aussi d'une profondeur énorme.
Mmh. C'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et des auteurs français, là-dedans, il y en a?
Oui, bien sûr. Un auteur qui m'a toujours fascinée, que j'ai découvert assez tôt, c'est Frédéric Dard.
Oui.
Je dirais que quand je l'ai vu la première fois, je n'ai pas tout compris. Mais petit à petit, ça a marché. Et c'est pas vraiment le contenu de ces livres qui me fascine, mais cette langue et ce culot énormément sympa d'inventer une langue. Et moi, on m'a toujours dit, si j'invente un mot, non, c'est fou. Je me suis dit, si Frédéric Dard a le droit d'inventer des mots, pourquoi pas moi?
C'est une découverte. Vous aviez quel âge quand vous avez rencontré l'écriture de Frédéric Dard? Vous maniiez déjà le français?
Je suis arrivée en France, j'avais 30 ans.
Ouais.
Je parlais pratiquement pas français.
Ouais.
Je me suis dit à l'époque, quand je vis en France, évidemment, il faut que je travaille en France. Et travailler, pour moi, ça avait toujours à voir avec l'écriture. Alors, je me suis dit, dans 3 mois, il faut que je sois capable d'écrire. Bon, bien sûr, ce n'était pas possible, c'est un peu exagéré. Mais j'ai commencé à écrire après un an à peu près. Et c'était dans ce sens que j'ai découvert aussi Frédéric Dard. Donc, au début, je l'ai lu un peu difficilement, mais petit à petit, mon français est devenu mieux avec lui même.
C'est étonnant quand même que Frédéric Dard soit le premier dictionnaire d'une Allemande qui veut apprendre le français. Mais c'est bien, c'est vrai que c'était une écriture moderne qui a été reconnue d'ailleurs longtemps. Frédéric Dard, c'était l'auteur de San Antonio, point barre. On a reconnu son écriture tard dans sa vie.
Oui, je sais.
Hélas.
Oui.
hélas. Et donc toutes ces lectures, donc Frédéric Dard, il y a d'autres auteurs peut-être qu'à l'époque vous avez lu en langue française qui vous ont permis justement d'écrire, parce qu'il faut dire à nos éditeurs que Justice au bout du chemin est écrit en langue française, c'est pas une traduction. Vous écrivez naturellement en français, c'est comme une deuxième langue maternelle aujourd'hui.
Oui, après tout ce temps, le français est devenu ma langue et j'écris aussi en allemand, mais pour moi, l'allemand, aujourd'hui, c'est devenu plutôt une langue de traduction que d'écriture.
Il y a des mots encore que vous cherchez en français, des fois ? Quand vous voulez exprimer quelque chose et que vous n'avez pas le mot, ou toujours le mot juste vient ?
Je pense qu'il n'y a pas d'écrivain qui réfléchit pas de temps en temps sur une expression ou qui améliore une première expression. Mais non, normalement, non.
Tout vient fluidement.
Oui, je pense.
On va marquer une petite pause musicale avant de rentrer dans le livre et que vous nous en parliez plus de cette fameuse justice au bout du chemin, de quel chemin et de quelle justice et envers qui.
Avec plaisir.
Et nous sommes toujours sur FM+, avec Doris Kneller pour son livre « Justice au bout du chemin ». Doris, dans ce dernier livre, « Justice au bout du chemin », ce livre, il est proposé suivant un concept assez particulier. Plusieurs formules. Une qui est une prévente, confiance, c'est-à-dire que les gens vous achètent le livre maintenant, ils le recevront septembre-octobre à peu près, pour un prix de...
Non, ils recevront pas septembre-octobre, ils recevront une partie. Donc, je me suis inspirée en fait des romans feuilletons à la fin du 19e, non...
Tu es 19e siècle.
19e, et début du 20e. Tous les grands noms, Eugène Sue, Conan Doyle, Camus, pas Camus,
Balzac, Sand, j'en ai trouvé pas mal, voilà. Certains avec une veine historique d'ailleurs aussi.
Absolument. Il y a cette histoire sur Conan Doyle qui un jour voulait faire mourir son fameux héros. Et les gens sont intervenus et ils ont dit non, c'est pas possible. Il était obligé de le ressusciter. Et justement, c'est ça qui m'a fascinée. Le fait de publier le roman comme feuilleton, d'abord, ça avait l'avantage que les gens qui avaient peur des librairies, qui avaient peur des livres, se sont mis à lire parce que le format feuilleton, à l'époque, c'était soit dans les journaux, soit dans les tout petits bouquins. Ça leur a pris le peur de la littérature. Et après, les gens pouvaient intervenir. C'est ça qui m'a fascinée aussi. Ils pouvaient dire, comme, par exemple, non, cet héros ne devrait pas mourir. Cet héros devrait faire ceci et cela. Et ça m'a vraiment intéressé parce que un auteur, normalement, il travaille dans son petit coin, tout seul. Il n'a pas de vraiment des réactions. Peut-être s'il y a des gens autour de lui qui lisent, il a des réactions, mais très personnelles. Mais ce qui est intéressant et important pour un auteur, d'avoir des réactions de partout. Et eux, ils en ont eu pendant qu'ils écrivent. Et moi, je me suis dit, ça serait vraiment intéressant de ressusciter la forme, faire participer les lecteurs. Mais aujourd'hui, dans la forme de l'époque, ce n'est plus possible parce que faire imprimer des petits bouquins comme ça pour quelques pages, c'est trop cher. Mais on a des autres moyens, on a les moyens électroniques. Donc, je me suis décidée de partager le livre en 10 parties. Ça veut dire 10 fois dans les 40 pages. Et les gens qui veulent participer, je leur envoie dans un rythme, pour disons, 3 par 2 mois à peu près, mais ce n'est pas tellement régulier. Toujours une partie. Ils peuvent le lire et après me faire des propositions. Des propositions sur l'histoire, sur les personnages. Et donc
ils reçoivent, pour que ça soit bien clair, ils reçoivent les 40 pages par format PDF par ordinateur.
Par exemple, oui.
Voilà. Et s'ils veulent influencer l'énigme, ils peuvent vous écrire pour vous dire là, pourquoi, là, on verrait, c'est ça?
Absolument. Bien sûr, je ne peux pas adopter toutes les idées, mais j'ai déjà reçu quelques idées qui étaient très, très intéressantes et que j'ai adaptées avec grand plaisir. Parce que ça me prouve que les lecteurs vivent dans le livre et réfléchissent aussi. Et je pense aussi que ça les fait lire un peu plus intensément, parce qu'ils savent qu'eux aussi, ils peuvent jouer un rôle dedans.
Il y a déjà des gens qui vous ont fait des retours, oui?
Oui, j'ai eu quelques idées formidables. Jusqu'à maintenant, bon, je suis en train d'envoyer la 5e partie. En principe, le livre, qui a à peu près 400 pages, est écrit. Mais je reste encore ouvert, justement, pour des idées. Par exemple, je viens d'envoyer le 10e chapitre. Bon, il y a plus de chapitres que parties que j'envoie, évidemment. Et là, j'ai repris maintenant avec une nouvelle idée, le 7e chapitre, justement pour ajouter quelque chose qui est important et que je n'avais pas vu dans mon aveuglement d'auteur.
Vous le réécrivez presque entièrement, ce septième chapitre. Enfin, ce n'est pas les chapitres, hein, c'est des parties. C'est...
Bon, je livre en 10 parties,
oui.
Mais il y a quand même les chapitres.
Les chapitres dedans. Oui. Moi, j'ai lu les 3 premiers, donc c'est plein de suspense. Hein, et déjà, dans les 3 premiers, l'émotion et la dramaturgie montent de chapitre en chapitre. Mais vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'histoire de cette justice, au bout de quel chemin, dans quelle région, voilà, s'il y a des personnages attachants. Il y en a déjà, j'en ai déjà rencontré. Hein, moi, je m'identifie pas mal à Artémis, mais bon, voilà. Il y en a d'autres. C'est l'histoire de qui ?
En effet, c'est l'histoire d'un petit village dans les Pyrénées, un village où on ne passe pas par hasard parce que c'est vraiment perdu dans la montagne. Et malgré le fait que c'est un village vraiment au bout du monde, comme disent certaines personnes, il y a des intrigues, il y a une volonté politique. Dans ce village, pendant l'hiver, on trouve 12 personnes. En hiver, en été, il y en a un peu plus, parce qu'il y a des enfants, des habitants, des petits-enfants qui viennent. Ils ont même créé une association des natifs. Dans tout cela, il y a une volonté de pouvoir, une volonté de politique qu'on ne soupçonne pas. Et justement, comme j'ai longtemps vécu dans un tel village, je voulais un peu tracer ces intrigues. Et bon, les personnages que je montre existent. Ils ont d'autres noms, bien sûr. J'ai choisi des détails. Mais je dirais, si quelqu'un se reconnaît ou quelqu'un reconnaît une de ces personnes, c'est pas un hasard.
Donc c'est un roman à clé.
On peut dire ça.
Il faut bien vous connaître, vous, Doris, pour connaître les clés. Parce que ce petit village qui est en dehors de tout, il y a peu de gens qui le connaissent.
Non, je dirais pas du tout ça. Et si... Un lecteur me dirait qu'il faut me connaître pour comprendre le livre. Là, je dirais, j'aurais raté mon livre. Non, un auteur, il n'est pas dans son livre, il est derrière, il le fait naître. Mais c'est comme un enfant qu'on laisse dans la vie. L'enfant doit se débrouiller seul, doit rencontrer des personnes, doit nouer des relations. Et c'est la même chose avec un livre. Non, il ne faut pas me connaître, il faut connaître le livre pour comprendre.
Et se reconnaître peut-être dans tous les portraits. Moi, comme je vous dis, je me suis identifiée à Artémis. Mais il y a un méchant dedans quand même. C'est qui ce méchant ?
Ce méchant est la mère du village. Un monsieur qui a toujours cherché le pouvoir, pas seulement au niveau du village, mais là, c'est le mieux réussi. Un grand propriétaire qui, bien sûr, comme tous les méchants, a beaucoup... A eu un destin pas trop beau, il a beaucoup souffert dans son enfance. Mais pour lui, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le pouvoir. L'argent qu'il adore ne lui sert qu'à acheter le pouvoir, parce que l'argent, toutes les autres choses qu'il peut acheter avec l'argent ne l'intéressent pas. Et donc, il fait tout pour avoir le pouvoir. Il veut décider qui vit dans ce village, ce qu'il fait, à quoi il pense, et ce qu'il mange, on peut dire. Et il réussit pas toujours, évidemment. Il y a des gens qui se révoltent contre lui. Et comme il a le pouvoir, et comme il peut acheter des personnes qui aident, ça finit parfois très mal pour ces personnes.
Et donc le roman commence par l'arrivée de cette femme dans le village qui va annoncer l'assassinat de Brisu. Comment, quoi, ça on le saura tout à la fin du roman. Ce personnage de femme, c'est le seul qui n'est pas vraiment réel, je crois, dans le livre.
Absolument. Pour raconter cette histoire, j'ai choisi donc l'histoire de policier et sans être un vrai policier, parce qu'on part du principe qu'on sait que ce maire, M. Brisu, va être assassiné. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il va être assassiné? Et si oui, par qui? Donc, j'ai inventé ce personnage qui n'est pas vraiment réel. Une femme qui est un peu hippie, un peu spirituelle, qui entend des voix. Et ces voix, parfois, lui donnent des missions. C'est une femme qui erre dans le monde. Elle est à droite, à gauche. Elle n'a pas vraiment d'endroit d'où elle vient. Elle ne sait pas où elle va. Et là, elle a entendu des voix qui lui ont donné la mission d'aller dans ce village, dont évidemment elle n'a jamais entendu parler avant, pour dire au maire qu'il va être assassiné, pour lui donner une chance de changer son destin. Et donc elle va dans ce village, elle tombe sur le maire. Elle est très mal accueillie, évidemment, parce que je pense un homme comme lui, si on lui dit « vous allez être assassiné », c'est pas ce qu'il va croire. Et donc, elle reste, malgré elle. Elle veut partir parce qu'elle sent que c'est pas bien pour elle de rester. Mais quelque chose la fait rester quand même, quelque chose qui se passe dans sa tête, dans son esprit.
De plus fort.
Et donc, petit à petit, elle fait connaissance de tous les personnages qui vivent dans ce village. Elle se rend compte très vite que... Il y a pratiquement tout le monde qui aurait envie de l'assassiner ou de le voir mort parce que c'est un homme qui fait mal vivre tous les gens qui sont dans son village. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le courage de l'assassiner? Parce que avoir envie de voir mort quelqu'un et l'assassiner, ce sont quand même deux choses différentes.
C'est les 12 petits nègres, pas loin.
Peut-être.
Pour connaître toute l'aventure, pour savoir comment acquérir le livre, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous contacter pour nos auditeurs, si d'aucuns voulaient connaître les histoires de Brisu, la suite, le dénouement, vous accompagner, vous soutenir.
Donc, en effet, ceux qui veulent participer à l'aventure, parce que l'écriture de ce livre est une double aventure, déjà l'écriture en soi, mais bien sûr aussi cette communication avec les lecteurs qui est fascinant. Je propose ce livre d'abord en petite partie, donc 10 parties à peu près 40 pages chaque partie, livré petit à petit de manière électronique, c'est-à-dire toujours en EPUB et en PDF. Et pendant cette période, tout le monde peut intervenir et il y a des changements qui ont déjà été faits, qui vont encore être faits probablement. Et à la fin de ce livre, à la fin de cette histoire, il y a bien sûr à la clé le livre traditionnel en papier. Et donc, les gens qui veulent participer, je leur demande 18 euros pour toutes ces livraisons, pour la possibilité d'intervenir. Et bien sûr, inclut le livre de papier à la fin. Et ceux qui ne veulent pas prendre le risque de me donner 18 euros et se dire peut-être ça ne me plaît pas, je leur propose d'acheter un partie par partie pour 2,50 euros. Par partie, donc ils peuvent s'arrêter quand ils veulent, mais il y a bien sûr aussi des personnes qui ont choisi cette formule pour mieux me soutenir, parce qu'en même temps, ça me donne bien sûr le courage de continuer. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que bien sûr, j'ai des autres occupations professionnelles, et donc le fait qu'il y a des lecteurs qui attendent quelque chose de moi, ça me donne courage et envie.
Donc, on vous contacte sur un site Facebook, sur une adresse Internet, à la librairie Tapuscrit.
J'ai évidemment une page Facebook qui s'appelle Doris Knaller Auteur, où très souvent, je publie quelques extraits pour donner envie. Si on veut acquérir le livre, participer à l'aventure, c'est surtout par la librairie Tapuscrit. Le propriétaire de la librairie soutient l'idée et c'est avec lui qu'on peut tout faire.
Eh bien, Doris, merci pour ce bel échange. Donc, je rappelle que ce livre va être disponible chez Tapuscrit, auto-édité, que chez Tapuscrit, on peut trouver aussi plein d'autres choses de votre travail, notamment avec La Route des Arts en Languedoc, et que c'est aussi disponible sur les différents salons du livre auxquels vous participerez l'année prochaine. Merci beaucoup et au revoir, Doris.
Merci, Nathalie. Au revoir. Thank you.